Raté. 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 Raté.
Il est 21h sur La Clé des Ondes et c'est l'émission Rature. Un numéro spécial, un entretien long, une discussion avec un auteur. On a la chance d'avoir sur Bordeaux Alessie Dellombria autour de son livre « Du fric où on vous tue ». Alessie Dellombria, c'est pas un inconnu pour nous puisque on l'a rencontré il y a une quinzaine d'années autour d'un livre qu'il avait écrit sur l'histoire universelle de Marseille de l'an 1000 à l'an 2000. Aujourd'hui, Alessie, tu sors un livre du fric où on vous tue autour d'une expérience un peu particulière, voire inconnue, d'un groupe qui se nomme Os Congaceros. Mmh. Et c'est un groupe, on va dire, tout simplement de hors-la-loi, radicalisé, qui vit incognito, recherché aussi par la police. Peut-être que tu peux nous raconter la genèse. Pourquoi tu as raconté cette histoire maintenant ?
Alors, Os Congaceros, c'est donc un groupe qui date des années 80, c'est la décennie 80. Donc il y a une période très particulière puisque c'est le moment où on bascule complètement dans la gouvernance néolibérale que nous connaissons depuis. Donc on sort d'une, c'est aussi le moment où où se consacre l'épuisement définitif du mouvement ouvrier. Donc on change complètement de configuration par rapport à la décennie précédente. Donc Os Congaceros s'est créé en 84. Et c'est autodissous gentiment vers 92, on va dire, pendant l'année 92. C'est un groupe qui est un groupe affinitaire, de gens qui avaient déjà pas mal d'expérience, qui avaient déjà, la moyenne d'âge du groupe c'était quand même 28 ans, donc c'était déjà des gens qui avaient une dizaine d'années de pratique. Tous des gens qui avions connu l'après-mai 68, quoi. L'après-mai 68, qui a été caractérisé en France par, entre autres, on retient généralement de ça tout l'activisme gauchiste, tout ça, qui a été très important, mais il y a eu aussi toute une autre dissidence beaucoup plus, peut-être plus enfouie dans une certaine clandestinité sociale, qui était le refus du travail, qui a traversé que ce soit les classes moyennes ou la classe ouvrière, chez les jeunes, et qui a été quelque chose d'assez fort dans les années d'après 68, et qui s'est traduit entre autres aussi par une délinquance, on va dire, anarchisante, qui a marqué toute la décennie 70. Il y a toute une jeunesse qui a fonctionné comme ça, cambriolage, braquage de banque, escroquerie au détriment des banques, tout ça. Ça a été un truc très diffus. Et deux bandes qui, elles-mêmes, par ailleurs, se retrouvaient dans des fins de manif, dans les affrontements contre les flics, ou dans des situations d'émeutes ou de vandalisme, autour des concerts de rock, de matchs de foot, etc. Il y a eu toute cette mouvance, on va dire, inorganisée, dont une partie, après, s'est retrouvée un peu dans ce qu'on appelait l'autonomie à la fin des années 70.
Est-ce que c'est les mauvais garçons ? C'est un livre autour de Lola Misrov qui parle justement de ces jeunes qui sont entre la délinquance et le mouvement post-68.
Oui, tout à fait. Oui, oui, Lola Misrov a connu tout ça. Elle a connu cette époque-là, qui était une époque de dissolution. C'est aussi l'époque, par exemple, je sais qu'elle aussi, elle a connu, moi aussi j'ai connu les gens du phare à l'époque, tu vois, bien que je n'étais pas homosexuel, mais le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, qui était quelque chose de très, très rock'n'roll, quoi, qui était vraiment, pour moi, c'est un des trucs les plus révolutionnaires qu'il y a eu après 68. Quoi.
Donc là, c'est des jeunes qui sont un peu déclassés, qui sont sortis du travail,
ouais. Qui ne sont même pas rentrés.
Qui ne sont même pas rentrés. et par contre, qui lisent, qui ont des influences politiques. C'est quoi ces influences politiques ?
Ah ben au départ l'anarchisme bien sûr parce que tous les quand t'avais 14 ans après 68 et que t'étais révolté tu te disais anarch quoi. Mais bon l'anarchisme c'était qu'un mouvement du passé quoi. Pour nous les références bon c'était des références du 19e siècle même l'expérience espagnole était pas très connue à l'époque et après évidemment c'était les situationnistes quoi. Quand tu étais en rupture de banc à l'époque, que tu étais en rupture avec la famille, avec l'institution scolaire, avec la vie laborieuse à laquelle on te destinait, que tu refusais le travail par avance. Évidemment que chez les situationnistes, tu trouvais quelque chose qui te confortait. Et puis tu trouvais surtout quelque chose qui t'était contemporain, quoi. Quelque chose qui parlait du monde dans lequel tu étais contraint de vivre et où tu te sentais étranger. Quoi. Il y avait vraiment une critique qui englobait la totalité du monde et qui était extrêmement stimulante. Quoi. D'autant que bon, nous, pour la plupart, on était quand même très liés à ce que j'appellerais les cultures underground, les sous-cultures prolétaires, liées au rock, un peu à la cam, tout ça, un certain mode de bouger, etc. Nous, venus en grande partie d'ailleurs du monde anglo-saxon. Hein. Pour nous, c'était très important, ça. Comme je dis souvent, sans le rock'n'roll, la vie serait une erreur. Quoi.
Donc là, on voit le contexte, on voit
voilà.
Un petit peu
et
la
donc,
situation.
Donc, tu es dans ce truc-là, effectivement, chez les situationnistes, tu trouves une confirmation, et donc tout ça compose un horizon politique et culturel, pour autant qu'il soit pertinent de poser ces entités séparées. Et donc, voilà, ça, c'était ce qui nous a nourris dans les années 70, quoi, et ce qui était assez communément partagé, quand même. Par une frange assez large de la jeunesse.
Alors comment on se rencontre quand on est dans cette situation-là et en fait on est à Nantes, à Marseille, à Paris. Comment ce groupe affinitaire arrive à se retrouver sur les mêmes bases ?
Bah, y a, comme je dis, ce qu'en Gasser s'est créé, c'était la rencontre de plusieurs petites bandes qui fonctionnaient comme je viens de le décrire. Et qui se contentait pas d'être dans l'illégalité, de pratiquer la reprise individuelle, qui avait toute un peu une curiosité politique, qui allait un peu à la rencontre de luttes qui pouvaient être des fois extrêmement violentes, quoi. Que ça soit dans le monde ouvrier en cours de liquidation ou au contraire dans les cités de banlieue avec la jeunesse en grande partie d'origine immigrée. Et puis aussi par rapport aussi aux révoltes dans les prisons quoi, qui ont agité quand même toute la décennie 70 et encore la décennie 80. Donc voilà, les gens se manifestent, se rencontrent dans certaines occasions ou à partir d'un échange d'informations ou de publications, mettre ça en partage, se trouve des affinités, commence à se voir de plus en plus souvent, malgré les distances géographiques. Quoi. 81, c'est quand même la date charnière, Mitterrand est élu avec un slogan très 68art, « Vivre ». On sent bien que ça entérine la fin d'une époque. Que ça entérine toute l'onde de révolte qui a été suscitée par mai 68, qui a agité la société française, est en train de s'éteindre. On sent venir un changement radical d'époque. On le voit déjà à l'œuvre dans d'autres pays, hein, avec Ronald Reagan aux États-Unis, avec Margaret Thatcher en Angleterre, en France, en 84, c'est Laurent Fabius qui est nommé Premier ministre. Les socialistes renoncent même à la social-démocratie pour se convertir au libéralisme. Donc on voit bien qu'il y a un changement d'époque et que tout l'ancien mouvement ouvrier par rapport auquel la gauche était bien obligée de se situer est en train a fini de sa trajectoire et est complètement institutionnalisé, et que par ailleurs les luttes ouvrières commencent à être des luttes purement défensives, quoi. Et que donc par rapport à ça, les socialistes sont les plus adéquats pour gérer cette liquidation, quoi. Nous, toute cette jeunesse dont je parle, elle se retrouve pas du tout dans la gauche, hein. Elle n'a pas d'espoir, même si, évidemment, tout le monde est content que Mitterrand soit élu en 81, parce qu'il y a, ne serait-ce que nous, dans notre cas, parce qu'il y a une amnistie pour les prisonniers, qu'on avait quelques proches en prison. Mais on ne se fait pas la moindre illusion. On sait très bien que c'est la gauche qui a coulé le mouvement en 68, qui a fait retourner les travailleurs au chagrin, moyennant quelques avantages concédés par... un patronat trop content de sortir de la crise à si bon compte, les fameux accords de Grenelle. On voit bien, on les voit à l'œuvre, on voit comment ils arrivent à canaliser toutes les énergies et à les anéantir dans des procédures très institutionnalisées. Enfin, c'est le syndicalisme, c'est le... Et on sent que ça bascule. Déjà, on voit le PC qui commence à perdre son influence, le Front National inversement qui monte. On voit le recentrage de la CFDT, etc. Il y a pas mal de signaux qui indiquent qu'on change de paradigme.
Qu'est-ce qui vous rassemble ? C'est l'envie de quoi dans Os Congresseros ?
C'est par rapport à ce changement d'époque. On entre dans une époque franchement contre-révolutionnaire, contrairement à ce qu'on a vécu avant. Et il va falloir s'organiser pour ne pas y succomber.
Alors, on revient quand même sur le titre de votre groupe, le nom de votre groupe, Os Congresseros. Est-ce que tu peux faire un peu l'histoire et la référence ?
Donc le groupe se forme en 84, on décide, il y a quand même des textes qui circulent et tout, qu'on décide de publier, on forme dans une revue, et on dit il faut bien s'appeler. Et comme on est tous dans l'illégalité, on a tous une expérience en la matière et tout, et on dit pourquoi pas faire une référence aux bandits d'honneur du Nord-Est et du Brésil. Des cangaceros, c'est des bandits d'honneur, ça s'étale de 1880 à 1940. Le dernier cangacero, Corisco, a été abattu par l'armée en 1940. C'est dans le nord-est du Brésil, donc il y a une région très pauvre, une classe de grands propriétaires fonciers, de fazenderos, possède toute la terre et exploite durement les paysans. Et exerce un pouvoir quasi absolu, quoi. Donc, quiconque se trouve à un moment donné à déroger à l'obéissance à ces gens doit prendre le maquis, la caatinga, comme on appelle là-bas. Des bandes se forment, quoi. Souvent, par exemple, c'est des meurtres d'honneur, quoi, tu vois. Des meurtres d'honneur, un fazender ou un des hommes de main des fazenders qui a été tué pour des raisons d'honneur. Ça peut être par exemple un type a tué un gardien de fazenda parce qu'il a violé sa femme ou sa sœur, tu vois. Donc il est obligé de prendre le maquis. Et il forme des bandes qu'on appelle les cangaceros, des bandes armées. Et qui vivent sur le terrain, quoi, en détroussant les grands propriétaires fonciers, en les rançonnant, des fois en s'alliant avec certains de ces propriétaires fonciers contre d'autres propriétaires fonciers, parce qu'il faut bien qu'ils trouvent des appuis, mais qui sont traqués évidemment non seulement par les hommes de main des fazenders, mais surtout par l'armée, quoi. Et donc ils mènent de véritables batailles rangées. Certaines bandes de cangaceurs arrivent jusqu'à regrouper une centaine de personnes, quoi. Et puis qui maîtrisent complètement le territoire sur lequel elles évoluent. Donc voilà, aujourd'hui, évidemment, les derniers ont été tués par l'armée en 40, Mais ça reste une mythologie très vivante parmi les petites gens au Brésil. Il y a une vraie mythologie des Cangaceros, à laquelle nous-mêmes avons apporté notre petite contribution outre-Atlantique, en nous appelant comme ça.
Il y a un logo, donc vous éditez un logo qui montre un Cangaceros qui regarde le monde, une planète, une map monde, enfin non,
oui,
c'est une sphère.
Une photo qui servait d'illustration pour la revue, tirée du film de Lima Barrett, qui date de la fin des années 50, au Cangaceros, et qui raconte l'histoire d'une bande de Cangaceros. À un moment donné, ils y sont dans un village, ils rentrent dans l'école, et il y a ce globe terrestre, et le chef de la bande est là, il fait tourner le globe terrestre, et pensif, il tient le monde entre ses mains, il fait tourner le globe terrestre, et on a trouvé que cette image finalement restituait assez bien ce que nous-mêmes nous étions. Quoi.
Donc on est à la mi-temps des années 80, vers 84-85. Donc vous avez un nom. Il y a en même temps des révoltes dans les prisons et vous commencez à écrire une revue. Comment vous réfléchissez à la rédaction et qu'est-ce que vous voulez dire ?
Au départ, on n'a pas vraiment réfléchi à la rédaction. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des textes qu'on écrivait sur des situations, des luttes auxquelles on s'était trouvé confronté où on avait participé, etc., des comptes rendus, quoi. Et donc, ils circulaient entre nous, et on trouvait que c'était dommage, quoi, que ça reste comme ça, confidentiel. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on publie ça. Donc, on a fait cette revue, sous ce nom-là, on en a fait trois numéros qui n'étaient pas du tout périodiques. Hein. On le faisait quand il y avait du matériel. On a fait trois numéros. 85, 86, 87, le dernier date de avril 87. C'est des numéros assez épais avec une grosse annexe documentaire. Donc on publie beaucoup de textes qu'on trouve chemin faisant dans le vaste monde et qui nous paraissent eux aussi mérités d'être portés à la connaissance du public. Si tu veux, non, c'était très paradoxal parce qu'on avait une attitude un peu. On faisait un petit peu les ronflants quand même, tu vois, on avait une attitude un peu. C'était peut-être l'héritage situationniste, tu vois. Puis avec ce côté un peu, genre, on est des hors-la-loi, quoi. Mais en même temps, on était capable de beaucoup d'humilité quand on allait à la rencontre de d'autres horizons que les nôtres. Et on était quand même capable d'être à l'écoute et d'apprendre des gens qu'on rencontrait, tu vois. Ces gens, ça pouvait être les ouvriers des chantiers navals de Nantes ou de la Ciotat, ça pouvait être les mineurs britanniques en grève, ça pouvait être des jeunes immigrés des cités de la banlieue parisienne ou marseillaise ou lyonnaise, ça pouvait être ça pouvait être même des travailleurs de la BNP, comme on en a connu tout un petit collectif à une époque, avec qui on a fait quelques actions marrantes. Pour nous, on concevait notre activité non pas comme une espèce d'activisme désespéré, essayant de réveiller les gens, on n'était pas du tout dans cette logique-là. On était plutôt dans une logique de, bon, notre aventure, elle se poursuit aussi comme un voyage dans le monde, à la découverte des luttes que ce monde engendre fatalement, quoi. De gens qui vivent des expériences très différentes des nôtres, mais par rapport auxquelles on se retrouve à un moment donné, une rencontre, une connivence, une rencontre a lieu, une connivence s'établit. Et donc voilà, les textes qu'on sort dans la revue rapportent ça, tu vois, rapportent ces moments-là et ce qu'on y a appris, ou ce qu'on croit y avoir appris. Donc ça, c'est la revue. La revue, on a arrêté de la faire en 87, à partir du moment où on a commencé à avoir les flics sur le dos.
Alors, cette revue, vous étiez déjà dans la clandestinité ou
La plupart d'entre nous étions déjà, de toute façon, clando. On vivait déjà avec des faux papiers, parce que, de toute façon, nous, notre truc, c'était l'escroquerie au détriment des banques. Et dans l'escroquerie, tu laisses beaucoup de traces, quand même, quoi. Donc moi j'étais sous des faux papiers depuis 78, mais au départ c'était parce que j'étais insoumis au service militaire. Il était hors de question que j'aille faire le service militaire, de porter l'uniforme de quelque manière que ce soit. Et nous, on tapait déjà au chèque volé, donc les faux papiers, c'était pas un problème. Donc je suis dehors, j'y reste. C'était ça. Mais ça nous a rangé, en fait. Et beaucoup d'entre nous, après, ont pris les faux papiers sans avoir cette obligation-là. Parce qu'en fait, ça nous garantissait un certain anonymat et une capacité aussi à disparaître, à glisser entre les mains des flics comme une savonnette mouillée. Et à partir de 87, les quelques encore qui étaient encore sous leur vraie identité ont dû aussi prendre des faux papiers. Ça implique une vie complètement en marge, quoi. Hein. C'est vraiment, c'était ça, en ça qu'on s'identifiait quelque part aux cangaceiros, qui vivaient aussi totalement en marge de la société nord-estine brésilienne, tu vois. Ça implique de un fonctionnement qui peut parfois être même très contraignant, hein, mais qui te permet de gagner une liberté inconcevable par ailleurs, quoi. Voilà, nous on se finançait par des escroqueries au détriment des banques, quoi, hein. Évidemment, on se situait de fait dans une tradition qui avait été ouverte bien avant, à la fin du 19e, au début du 20e, par les anarchistes illégalistes, quoi. On pense évidemment à des expériences très diverses, d'ailleurs, hein, depuis Alexandre Marius Jacob et les Travailleurs de la Nuit jusqu'à la bande d'Abono, en passant par Clément Duval, gens comme ça, des choses plus contemporaines, quoi. Par exemple, le héros de la jeunesse révoltée des incendies, c'était Jacques Mesrine. Jacques Mesrine, qui avait réussi une magnifique évasion de la prison de la Santé, qui avait mené des actions contre les quartiers de haute sécurité où lui-même avait été enfermé. Et on était très tristes le jour où Jacques Mesrine a été assassiné par l'anti-gang. On avait beaucoup de sympathie pour lui. Et j'ai d'ailleurs écrit un petit bouquin qui s'appelle « R.I.P. Jacques Mesrine », qui a été édité en Espagne, qui est en bilingue, espagnol et français. Qui m'avait été demandé par des camarades espagnols.
Alors, on va peut-être revenir là-dessus, mais derrière tout ça, il y avait une bande musicale. Donc, vous écoutiez de la musique, et on va écouter un titre du MC5.
Alors, MC5, c'était un groupe de Détroit. Détroit, qui est la ville Motor City, quoi, qui est la ville de l'industrie automobile, qui est aussi la ville où John Lee Hooker a fait... est venu s'installer en émigrant du Sud profond et a commencé à bosser comme ouvrier avant de jouer du blues. C'est la ville de Iggy Pop and the Stooges, c'est la ville de MC5. MC5 était le groupe de propagande musicale du White Panther Party, de John Sinclair, qui disait, voilà, on soutient les Black Panthers, mais on est des Blancs, donc on crée notre propre truc. Et donc MC5 faisait des concerts absolument explosifs, au niveau musical, c'est très garage, c'est du son garage, quoi. Maintenant, on dit rétrospectivement que c'était les premiers punks, quoi.
Donc, on va l'écouter, vous
là,
êtes
là, c'est
bien.
Kick Out the Jams, voilà, donc voilà. Il y a une incitation qui est un morceau explosif qui est incité à se lâcher carrément.
On écoute ça, vous êtes toujours sur La Clé des Ondes. Nous sommes avec Alessi Dell'Embria qui nous parle de son dernier livre, Du fric où on vous tue.
Get the
Voilà. Voilà, donc on vient d'écouter ce morceau. On revient, vous êtes toujours sur La Clé des Ondes, avec Alessie Dallombria, autour de son livre Du fric où on vous tue. Peut-être parler de l'illégalisme, ou en tout cas, parce que là, on a vu bon, l'histoire de la revue, on a vu aussi la situation sociale, la situation politique. Et en fait, tu dis que vous arrêtez la revue en 1987, vous commencez à faire de l'arnaque.
On en faisait beaucoup déjà. La plupart d'entre nous avions déjà 10 ans d'expérience en la matière.
Hein. Donc en fait, c'est une époque un petit peu révolue où il faut peut-être expliquer aux auditoristes qu'à une certaine époque, il y avait des chèques. Et avec ces chèques, on pouvait les voler et on pouvait retirer de l'argent. Donc ça a été un moyen pour vous de subvenir à vos besoins, mais aussi à subvenir à vos actions, à la solidarité. J'aimerais bien que tu racontes un petit peu ce qui vous liait dans ce groupe-là, c'est-à-dire que vous étiez des bandits, mais des bandits qui reversaient de l'argent à la solidarité. Un petit peu votre...
Oui, disons que... Bon, il faut bien voir le contexte, on est quand même avant l'informatisation générale, hein. Jusqu'à 90, un certain nombre d'opérations étaient possibles qui n'ont plus été après. Donc, les années 70, bon, les gens touchent un peu, on touche un peu, certains au casse, certains au braco. Mais très vite, on se rend compte que le moyen le plus cohérent pour ramasser de l'argent, c'est quand même l'escroquerie, au détriment des banques. Puisqu'évidemment, il s'agit de s'en prendre, de frapper là où il y a l'argent, là où il y a le capital. Donc nous, dans les années 70, c'est les chéquiers volés, traveler chèques volés, tout ça, on falsifie les papiers, on va retirer, on modifie les grilles de retrait qui permettent de multiplier les retraits sur une journée, de faire 10, 20 retraits, mais il faut avoir des grilles et tout ça. Les banques réagissent, font que les... on peut plus
alors,
changer.
Il faut quand même expliquer, c'est-à-dire que tu avais un chéquier, tu avais une grille derrière sur laquelle, en apposant ta signature, tu pouvais retirer liquide.
Pour les retraits déplacés, c'est-à-dire hors de ta succursale, tu faisais un chèque, tu débitais un chèque, c'était 1000 francs à l'époque au début, après ça a été 1005, et dans les années 80 c'était 2000, ce qui était pas mal de fric à l'époque. Tu fais un chèque donc à la banque, et la banque te met un tampon avec la date et le montant, et tu n'as plus le droit de retirer pendant une semaine. Tu atteins ton montant maximum. Donc le jeu, c'est de changer les grilles pour pouvoir, dans la même journée, avec ce chéquier volé, de faire non pas un seul retrait frauduleux, mais 5, 10, 15, etc. Donc on récupérait des grilles de retrait sur d'autres chéquiers ou avec des équipes de gens qui faisaient la même chose que nous, qu'on connaissait. Il y avait des échanges de services, tu vois. On s'échangeait les grilles. Les banques, après, ont réagi à partir de 78 en mettant des numéros sur les grilles, le numéro du premier et des derniers chèques, on ne pouvait plus les changer. Donc, on falsifiait les tampons et les dates. Mais ça, c'était beaucoup plus difficile, c'était plus hypothétique. Ça réduisait les possibilités. Et à partir du début des années 80, on a commencé carrément à non plus à voler les chèques, mais à se les faire offrir par la banque. C'est-à-dire, on ouvrait des comptes avec de fausses identités, des faux documents, type fausse facture EDF, tout ça. On faisait tourner les comptes, et puis un beau jour, paf, on tapait, on avait accumulé des grilles de retrait. Après, on partait à l'étranger aussi, à l'époque, avec une carte Visa. Tu pouvais retirer 1000 francs dans une banque sur présentation de la carte Visa et du chéquier. Donc, tu exploitais un peu avec tes grilles de retrait en francs, et après, tu pouvais aller dans des grandes villes européennes où il y avait pas mal de banques. Tu pouvais ramasser pas mal d'argent comme ça. Et on a décidé... quand Oscar Gasser s'est créé, on a installé une imprimerie pour fabriquer tous les faux documents dont on pouvait avoir besoin, quittance CDF, etc., etc., quittance de téléphone, et notamment des grilles de retrait, ce qui permettait d'avoir des grilles de retrait à volonté. Et donc là, on a commencé à organiser des opérations, mais collectives ce coup-ci, c'est-à-dire qui impliquaient tout le groupe, plus ce que j'appelle le premier cercle, c'est-à-dire des gens très proches de nous, avec qui on avait assez confiance pour mener des actions, que ce soit des opérations de reprise ou des actions plus, entre guillemets, politiques. mais qui, pour différentes raisons, soit ne souhaitaient pas rentrer dans le groupe, eu égard aux obligations que ça impliquait, soit que nous-mêmes, nous souhaitions tenir un petit peu à distance quand même. Donc on montait des opérations comme ça, tout le monde ouvrit des comptes, et tout d'un coup, paf, au même moment, tout le monde exploitait ses comptes avec ses grilles de retrait. Donc voilà, ça ramenait des sommes. Le but, c'était que tout le monde ait de l'argent en même temps. Il y avait une moyenne qui était fixée, donc ceux qui avaient gagné plus, de redistribuer à ceux qui avaient eu moins de chance dans leur opération, pour que tout le monde ait à peu près la moyenne. Et une partie de cet argent était versée à la caisse pour les dépenses propres au groupe, impressions, des machins comme ça. Soutien, il y avait une caisse de soutien aux prisonniers, puisqu'on avait pas mal de potes qui étaient en prison, bon, sur du droit commun généralement. Et une autre caisse qui était plus pour la solidarité avec ceux d'entre nous qui avaient des problèmes de santé. En particulier, on avait une amie qui avait subi un traitement cancéreux, donc il était hors de question qu'elle participe à ces actions. Et donc voilà, on cotisait. Il y avait des cotisations qui étaient prévues sur chaque opération. Et ceux qui avaient gagné plus donnaient à ceux qui avaient gagné moins. Le but, c'était voilà que... Et donc ça, on l'a fait plusieurs fois, avec succès. Et ça rapportait pas mal d'argent. Après, évidemment, à partir de 87, quand on a eu les flics sur le dos, on a dû procéder très différemment, quoi. Il n'était plus question de mener des grosses opérations qui étaient quand même à risque, quoi. Puisque le but des flics, quand ils ont commencé à nous traquer, c'était de constituer le délit d'association de malfaiteurs, quand même. Alors là, les peines, ça démultiplie, ça double les peines, hein. Et donc, il n'était pas question de mener ce genre de grosses opérations. Ça, ouais. On a vraiment fait ça entre 85 et 86.
Parce que tu l'expliques bien dans le livre, donc il y a une vraie traque à votre groupe où vous êtes suivi, la police vous poursuit et en fait, elle trouve l'atelier de reprographie que vous aviez, elle sait où est votre squat, en fait, puisque vous avez...
Oui, on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, d'autant que bon, nous, on s'était quand même signalé à l'attention publique en menant des actions de soutien aux mutineries dans les prisons en 85. Des actions de sabotage ou d'incendie. Oui, on était dans le collimateur, quoi. Et ça se savait, les flics savaient que, de toute façon, on fonctionnait comme ça sur de la reprise.
Mais ils ne trouvent rien.
Ils trouvent rien, ils trouvent... On s'aperçoit en octobre 87 de la filature. On évacue immédiatement l'immense squat qu'on avait rue du Faubourg Saint-Denis, qu'on occupait depuis 83, qui est notre quartier général. Certains y vivaient, d'autres y résidaient lors de leur passage à Paris. C'est là où on recevait aussi les camarades qui venaient de l'étranger ou de la proche banlieue. Donc on décide de l'abandonner. La suite prouve qu'on était bien inspirés. On repère d'autres filatures, on évacue d'autres tout. En gros, on voit que sur Paris, on est grillé. Donc on évacue tous les logements qu'on a sur Paris. Fort heureusement, après, on fait des tests, des faux déménagements sur les logements qu'on a à Nantes, à Marseille, tout ça. On voit qu'ils n'ont pas réussi à aller jusque-là, que la contagion est limitée à Paris. Mais donc, évidemment, ça nous amène à être en retrait. Et quelques temps après, un d'entre nous se fait arrêter en allant au local de l'imprimerie au Havre. Le local est vide, mais il y a une imprimerie non déclarée. Donc, évidemment, les flics le mettent à la question. Les flics ont quand même observé, se sont doutés qu'il y avait une opération en cours. À l'époque où on menait une de ces grosses opérations, c'était la fin. Ils n'ont pas vraiment de preuves, parce qu'on fait quand même très très attention, on fait des contre-filatures régulièrement. Quand on met des opérations, on coupe complètement les contacts avec les autres plusieurs semaines avant. On met vraiment toutes les conditions, on crée toutes les conditions favorables. Effectivement, ils n'ont rien en fait à se mettre sous la main. Ils espèrent trouver des armes et des explosifs. Parce que la thèse, la thèse dominante chez eux, qui a même été exposée publiquement par Xavier Hofer, qui est un peu leur conseiller politique à l'époque. C'est que des groupes comme le nôtre, qui font de la surenchère, qui systématiquement jettent de l'huile sur le feu sur tous les conflits en cours, vont finalement être pris au piège de leur propre... de leur violence incantatoire, et vont finir par passer à l'acte et à passer aux armes. Un schéma italien, quoi. Le problème, c'est que nous, on n'est pas des marxistes-léninistes comme les gens qui ont fondé les Brigades Rouges en Italie. On n'est pas non plus des guévaristes comme les gens qui ont fondé Action Directe. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Si tu veux. Nous, on est, comme je dis, c'est avant tout, c'est une forme de vie. C'est une forme de vie qui va à la rencontre d'autres formes de vie dans le monde. Le but, c'est pas de... On n'a pas la sotte prétention d'apporter l'attaque au cœur de l'État, quand même. On ne préjuge pas de nos forces. D'autant que l'État n'a pas de cœur. On voit bien que l'État n'a pas de cœur. Ce qu'on disait, vous pouvez flinguer le Moro, il y en a 10 qui attendent sur les starting blocks pour prendre la place. Cela dit,
vous arrivez quand même à toucher le système. Et on va peut-être revenir sur une des actions qui a été assez extraordinaire. Donc, dans les années 90, c'est le projet des 13 000, donc une action contre les prisons où vous constituez, on va dire, presque un parcours d'action avec un aboutissement, avec un dossier qui est constitué. Est-ce que tu peux nous rappeler quel était l'objectif de cette action ?
En 87, est annoncé par le gouvernement un projet de construction de 13 000 nouvelle place de prison dans un pays qui est déjà qui bat tous les records en Europe en matière d'incarcération, sachant que ces 13 000 nouvelles places non seulement résoudront pas la question dite de la surpopulation dans les prisons, mais permettront d'incarcérer encore plus de gens, puisque la surpopulation des prisons est un élément inhérent même de cette gestion disciplinaire des populations à risque, quoi. Et donc, on décide de mener des actions pour saboter ce projet. Alors, on le fait dans des conditions qui sont un peu tendues, puisqu'on commence à mener des actions en 89, c'est 89-90, alors qu'on est vraiment dans une clandestinité presque totale. Encore sur Nantes, Toulouse, Marseille, on a quand même conservé nos réseaux d'amitié et tout, mais sur Paris, on a coupé les ponts avec tous les gens qu'on connaissait pour pas leur attirer des ennuis. Comme je l'ai dit, il y avait autour d'Oskangasseur un premier cercle de gens proches. Bon, mais ces gens, ils font pas partie du groupe, ils ont pas à assumer les emmerdements. Hein. Donc, on perd de vue beaucoup de gens. On se retrouve un peu... un peu entre nous, quoi. Mais on mène ces actions, donc c'est une dizaine ou une douzaine, je ne me rappelle plus exactement, d'entreprises qui travaillent sur la construction des prisons. On incendie les locaux, on saccage tout, ça dépend. L'idée, c'est de faire simple, quoi. Nous, on est totalement hostile à l'usage des explosifs. D'abord parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et régulièrement, on voit dans la chronique, dans les milieux anarches, il y a quelqu'un qui se fait sauter la gueule en fabriquant une bombe. Ça, c'est fréquent, quoi. Et puis bon, l'explosif, ça ne nous branche pas. Nous, on est pour les modes d'action simples qui sont accessibles au plus grand nombre, quoi.
Le sucre
le sabotage,
le sucre dans le béton,
la bonne vieille pratique ouvrière qui est née à la fin du 19e et qui existe toujours, que n'importe qui peut pratiquer, le sabotage ou l'incendie, des trucs simples. Oui, c'est un délire dans lequel on est parti au départ, c'est qu'on voulait saboter le béton. Et on s'est aperçu, en consultant des dossiers techniques, que le ciment craint beaucoup le... Bon, c'est connu que le ciment craint beaucoup le sel. Par exemple, dans les villes maritimes où les maisons étaient construites avec du sable, ça se délite vite, quoi. mais encore plus que le sel, il craint le sucre. Et donc voilà, alors on a acheté des gros paquets, des gros sacs de sucre dans les coopératives, dans les supermarchés, où on les tirait avec des chèques, et on allait la nuit dans les centrales à béton qu'on avait repérées, on repérait les bétonnières, les toupies comme on appelle, c'est les trucs qui tournent sans arrêt pour que le béton ne prenne pas, qui desservaient les chantiers des prisons, et la nuit on allait là, et on remplissait les toupies avec des sacs de sucre, quoi. Et donc le lendemain ils fabriquaient leur ciment était sucré, quoi.
Vous faites du sabotage. Vous aussi, vous allez casser la gueule à un architecte.
Oui, on attrape un des architectes qui dessine les plans d'une de ses prisons à Paris. On le repère, on repère son officine. Et un matin, on lui tombe dessus. Il se fait rouer de coups. Enfin, le type, je pense qu'il a dû vraiment... recevoir la grosse punition, là, quand même. On l'a vraiment assaisonné. Et plus tard, on lui a envoyé une lettre avec notre logo pour lui dire...
Alors ça, c'est intéressant, puisque c'est là où, moi, je vois apparaître Oscar Gasseros. On est au tout début des années 90.
Ouais, 90, ouais.
Ouais. Moi, à l'époque, je militais dans une petite librairie libertaire sur Bordeaux. Mm-hmm. Et on voit arriver un paquet Kraft avec, à l'intérieur, un dossier assez énorme qui fait la compilation de toutes vos actions avec un texte qui précise pourquoi vous avez fait ça, c'est-à-dire, et toutes les punitions que vous avez émises. Alors, c'est drôle, il y a un côté un peu situationniste, c'est-à-dire que vous faites parler, nos services ont décidé de vous casser la gueule, donc il y avait toutes les choses, et on s'aperçoit que ce dossier, énormément de gens l'ont reçu, donc en fait, ça a été une action de massification de l'information sur vos actions.
Oui, parce qu'en 1985, quand on avait mené les actions en solidarité aux mutineries, on s'était quand même posé la question, pour le retentissement de ces actions à l'intérieur des murs, on était quand même tributaire du bon vouloir des médias, lesquels n'avaient aucune raison, évidemment, de nous mâcher le travail, bien au contraire. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on a saboté la fabrication des journaux dans plusieurs villes de province pour les punir, notamment de leurs commentaires désobligeants à l'égard des mutins. Parce qu'évidemment, les médias, c'est le parti de l'ordre. Et donc, on s'est dit, là, on va court-circuiter ça, on va pas s'emmerder avec les médias, on va s'adresser directement au public. Le concept de publicité, c'était quelque chose qu'on avait trouvé chez Jean-Pierre Voyer. C'était quelque chose qui nous... Un concept sur lequel on travaillait beaucoup, on réfléchissait beaucoup, non pas la publicité commerciale, la publicité marché, mais la publicité au sens de la constitution d'espace public, quoi. Et donc on s'est dit, on va aller directement s'adresser au public. Donc ça a commencé, en fait, on a fait une campagne de mailing sur 6 endroits où des prisons étaient en construction. On avait réussi à s'approprier les dossiers de construction, tu vois, en allant les voler dans les mairies. Et donc, sur 6 communes, on fait un mailing, c'est-à-dire on récupère des enveloppes d'entreprise, on imite les timbres, c'est les machines à timbrer rouges, on repère l'endroit où ils vont porter le courrier. Et là, c'était du boulot, puisqu'on fait ça avec les annuaires des téléphones. On recopie les adresses postales des gens sur les enveloppes, etc. On fait ces faux timbres. Et à l'intérieur, on glisse deux documents. Un, c'est le plan de masse de la prison en construction. Et l'autre, c'est une lettre avec le logo d'Oscar Gasseros, ce logo que nous voyons là, qui dit « Madame, monsieur, vous n'êtes pas sans savoir qu'une prison est en construction sur le site de votre commune. Nous mettons d'ores et déjà en circulation le plan de masse de cette prison et nous vous invitons à le faire circuler afin de pouvoir aider d'éventuels candidats à l'évasion. Parce qu'en fait, c'était très pragmatique parce que l'année d'avant, on avait un petit peu travaillé sur un projet d'évasion d'un détenu qu'on aimait bien et qui voulait s'évader, et qui était en quartier d'isolement, qui avait été mis en quartier d'isolement dans une prison qu'il ne connaissait pas. Il ne savait absolument pas se situer dans la prison. Donc on s'est dit, voilà, on va se publier les plans de masse pour que ça arrive, que ça circule, et par diffusion capillaire, que ça finisse par arriver aux intéressés, qui peuvent avoir comme ça le plan de masse de là où ils sont incarcérés. Enfin, c'était un peu ça l'idée. Je doute que ce soit effectivement produit, mais ça indiquait aussi une certaine façon de prendre les questions à bras le corps, quoi. Donc ça, on l'a diffusé...
par lettre.
C'était beaucoup de boulot, bah, ouais. Surtout recopier les adresses, tout, identifier les entreprises dont on reproduisait les timbres et tout. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que ça a fait un véritable scandale au niveau national. Ça a, fait, ça a passé aux journaux télévisés de 20h et tout. Indignation de la classe politique. Comment ça se fait que ces plans sont entre les mains de ces gens et comme, fait, indignation générale. Et d'autant que là-dessus, on ajoute ce gros dossier que donc, tu as eu entre les mains. Qui, lui, contient toutes les fiches techniques qu'on a réussi à avoir. Alors ça va depuis les plans de masse et les plans de détail, les réseaux électriques, les réseaux d'eau, les réseaux d'égouts, etc. Enfin, tout ce dont on peut avoir besoin pour arriver, en fait, à avoir une vue d'ensemble et une vue de détail de la prison. Ce qui est quand même un élément important dans une tentative d'évasion, quoi. Donc le dossier comprend toutes ces notes techniques, quoi. Ça fait quand même, c'est volumineux, quoi. Ça fait plusieurs centimètres d'épaisseur. Un texte donc effectivement qui revient sur les mutineries de 85 et 87, qui situe ça dans le contexte, quoi. Les lettres qu'on envoie à ce moment-là à toutes nos victimes, parce qu'on ne revendique pas tout de suite. On n'a pas envie que les flics captent qu'il y a une des actions générales.
C'est-à-dire que l'opération est terminée depuis plusieurs mois.
Et on envoie
mois,
les lettres aux victimes, envoyez... on leur dit « Voilà, ben, votre logo est apparu au projet de telle prison, donc voilà, nous avons été obligés d'exercer... des mesures de rétorsion sur votre entreprise qui a reçu une visite nocturne, tout détruit ou alors incendié.
Tout ça en formule bien administrative.
Oui, oui, en caricaturant le langage administratif très impersonnel, tu vois. On s'amusait bien en écrivant ces lettres.
Allez, si, il nous reste peut-être pas beaucoup de temps. J'aimerais qu'on parle aussi d'une des membres de ce groupe, parce que tu en parles dans le livre. Et puis, surtout, moi, c'était la deuxième rencontre avec Os Cangaceros. C'est, on reçoit un livre, Andrea, et donc c'est une de vos camarades qui raconte son expérience face à la maladie, face au cancer, et qui fait un choix de liberté. C'est quelqu'un qui a été important dans votre groupe.
Oui.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
Ben Andrea, c'était quelqu'un qui a participé à la constitution du groupe, qui avait déjà beaucoup d'expérience derrière elle et qui, à ce moment-là, suivait un traitement anticancéreux. Bon, après, elle a eu une rémission de quelques années. Puis, à la fin des années 90, à la fin des années 80, elle a rechuté, elle a fait quelques traitements. Puis, bon, elle a fini par refuser. Et donc... elle a refusé le nouveau protocole qui était proposé, sachant ce que ça voulait dire. Il lui donnait 2 mois à vivre, elle a vécu encore 8 mois, dont on l'a prise en charge, elle a fait ses adieux à sa famille, et on l'a loué une villa au bord de mer, où on était toujours plusieurs à se relayer autour d'elle. Et elle a dit, le jour où je ne peux plus faire ma promenade quotidienne, je m'en vais. Je m'ai fait un mes jours, donc voilà, on a été à ses côtés. C'était aussi une excellente faussaire. Elle était... Bon, il y avait plusieurs faussaires, plusieurs personnes parmi nous qui savaient faire les faux papiers, mais elle était véritablement une artiste. Donc ça a été sa façon aussi de participer, puisqu'évidemment, elle ne devait pas participer aux actions. Il était hors de question qu'elle court le risque de se retrouver en prison, même quand elle a eu une période de rémission. Donc on cotisait à chaque fois pour elle. Et...
ouais,
donc voilà, et ces derniers mois qu'on a passé avec elle, évidemment, on a eu énormément de discussions sur la critique de la médecine, en tout cas de la médecine telle qu'elle s'exerçait dans le monde occidental, le côté très déshumanisant, très industriel de la médecine. Il y a toute une réflexion. Bon, on est quand même après Tchernobyl aussi, qui quand même, nous, pour nous, date une première réflexion sur les questions, on va dire, pour faire court, écologiques, qui nous étaient assez étrangères jusque-là. Donc on articule tout ça, tu vois, dans ces discussions. On prend des notes, elle prend des notes, on prend des notes. Et à la fin, on lui dit « Mais pourquoi tu ne donnerais pas ça la forme d'un bouquin qui serait un peu ton testament, quoi ?» Donc elle met ça en forme et tout, et quelques jours avant de s'en aller, elle travaille encore dessus, et elle décide de s'en aller tranquille, sachant que voilà, elle a laissé derrière elle ce témoignage d'une lutte qui est à la fois très personnelle, parce que la maladie, à un certain stade, c'est ton corps, quoi, c'est toi, tu es renvoyé à ton individualité, mais en même temps avec une communauté qui l'entoure et qui ne la laisse pas seule. Donc voilà, c'est tout ce moment très fort qu'on a vécu avec elle qui ressort dans ce livre qu'on a publié en 91.
Donc, à compte d'auteur
Oui, bien sûr, oui, comme tout ce qu'on publiait. On avait de l'argent, forcément. C'était les banques qui nous finançaient à leur insu. Donc André a mis fin à ses jours en août 90. Le livre est sorti au printemps 91. Il a immédiatement été traduit en espagnol, en italien, en grec, en allemand, en anglais. Il a été réédité plusieurs fois par les éditions du Bout de la Ville. Donc voilà, nous, ça a été quand même un moment assez fort, parce qu'en même temps, pour nous, ça marquait aussi peut-être une limite qu'on avait atteinte dans notre expérience. André, elle aurait voulu que le groupe continue. Hein. Mais bon, quand même, 91, on a un débat, on commence à avoir un débat entre nous. On reprend des textes qu'on avait fait avant pour publier un manifeste. Je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas fait le manifeste, mais en même temps, on s'est dit, bon, il n'y a pas forcément... tous ces textes qu'on fait, ces manuscrits qu'on a mis en forme en 92, ou à la fin 92, on se dit non, ça vaut pas la peine de le publier. On était devenus plus exigeants, quoi. On va pas publier pour publier, pour histoire de montrer qu'on est là. Et en fait, c'est les écrits que plusieurs d'entre nous ont fait par la suite, dans les décennies suivantes, qui constituent en quelque sorte ce manifeste. On n'avait pas encore, on pensait qu'il manquait un certain nombre d'éléments, de réflexions, qui nous ont été apportés par la suite, tu vois, en particulier la découverte des luttes indigènes en Amérique latine, qui nous a mené un changement de paradigme très, très important.
Avant de, peut-être de parler de ça, parce que je pense que c'est vraiment à la fin où c'est l'espoir, mais dans le livre, j'étais étonné, tu reviens sur une histoire qui, moi, à l'époque, m'avait touché ou avait résonné, c'était l'affaire de Audrey Maupin et de Florence Ray.
Ouais.
Donc c'est... Donc,
en 94.
En 94, donc c'est deux jeunes qui, sur un braquage qui se passe mal, ils tirent sur les flics et ça se finit...
Oui, il y a cinq morts, trois flics, un chauffeur de taxi, en plus le pauvre, c'est un immigré africain, et Audrey Maupin lui-même qui s'est flingué. Et bon, nous, on ne les connaissait pas du tout. Et manifestement, c'était des gens qui n'avaient pas d'expérience de la délinquance, qui se lancent là-dedans sur un plan peut-être un peu, on va dire, romantique. Le problème, c'est que le romantisme en matière de délinquance, ça pardonne pas. Il faut quand même, un bagage expérimental, j'ai envie de dire. Donc ça part en vrille complet, leur truc. Et par la suite, des gens nous disent que c'était des gens qui lisaient nos textes, qui aimaient beaucoup Oscar Garcia. Pour eux, ça faisait partie des références, quoi.
Donc, évidemment, ça fait quoi, ça, quand on te dit ça?
Ben, ça me rend songeur. Bon, nous, on n'a jamais dit d'abord qu'il fallait prendre les armes, surtout pas de cette façon-là, hein. On se sent pas responsable, mais quand même, ça nous laisse songeurs, tu vois. Parce qu'on se dit que quand même, une certaine surenchère que Oscar Gaceros développe par rapport à la violence sociale, à un moment donné, appelle peut-être une réflexion plus profonde de fond sur ces questions-là, qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Ça aurait dû être ça notre testament quand le groupe s'est dissous. Ça aurait peut-être pas empêché ces jeunes de partir en vrille sur un coup foireux, mais en tout cas, nous, notre part à nous, puisque là, on pose des actes, on pose des écrits, on sait que tout ça va se transmettre, que tout ça va circuler, que tout ça va être... va nourrir des gens plus jeunes que nous qui débarquent avec leur révolte et tout, des gens désarmés, dans une époque qui reste quand même très contre-révolutionnaire, qui n'est pas l'époque que nous on a connue d'après 68. Et donc c'est vrai qu'on aurait dû... Un ami qui faisait partie du premier cercle m'avait incité d'ailleurs à faire un compte-rendu de dissolution, expliquer pourquoi... Bon, Je ne l'ai pas fait, personne n'a voulu le faire dans le groupe à l'époque. Je pense qu'on avait envie de passer à autre chose, qu'on n'avait pas envie de revenir là-dessus, les conditions n'étaient pas mûres. Là, je l'ai fait parce que depuis une douzaine d'années, j'ai rencontré pas mal de jeunes. Enfin, je dis des jeunes, c'est des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Des gens qui étaient à Gênes en 2001, qui étaient dans le Black Bloc, qui étaient à la ZAD, qui sont dans des squats, qui sont dans des lieux alternatifs, et qui, pour qui tous, Oscar Gasset aurait été une référence. Et donc, qui me sollicitaient. Nous, on n'en parlait pas. Hein, dans les années après, on ne se vantait pas, on n'avait pas à le faire. Mais bon, tout se sait. Et donc, les gens savaient que j'avais fait partie de ça, et me disaient, ce serait bien de raconter cette histoire et tout. Donc, au bout d'un moment, je l'ai fait. Et je l'ai fait sous forme d'un dialogue, d'un échange très fructueux avec ce groupe de gens qui ont formé les éditions des Mondes d'Affaires, qui n'est pas vraiment un éditeur au sens classique. C'est-à-dire, ils ont un coup de cœur. Tous les deux ou trois ans, ils publient un livre. Ils ont publié la colonisation des savoirs de Samir Boumedienne, qui est un très beau livre. Ils ont publié des choses comme ça, un gars qui s'appelle Ratcharge, celui qui est un arco-punk. Voilà. Et donc, il y a eu un dialogue, une saine émulation, une saine confrontation qui a abouti donc à ce livre, qui est très bien fabriqué, très bien diffusé. Et voilà toute l'affaire.
Donc, vous l'avez compris, vous étiez en train d'écouter Alessi Dell'Umbria qui vient d'écrire du fric où on vous tue. On aurait pu parler du Chiapas, on aurait pu parler notamment de toute la bibliographie qui est dans ce livre parce que vous réfléchissez
on
et en même
beaucoup,
temps,
ouais.
Et vous lisez beaucoup, vous faites des notes, vous discutez beaucoup. Donc, c'était un groupe Oskangaceros de hors-la-loi. Radicalisé, c'est une expérience, c'est un tout petit livre à lire en une seule traite. On va finir juste en écoutant Jerry Lee Lewis.
Oui, puisque c'est l'essence du rock'n'roll, World Lotta Shaking Going On, Shake It Baby Shake It. Et donc on écoutait beaucoup ça, et donc voilà, c'était la bande de son sur laquelle s'est déroulée l'expérience d'Oskar Gasseros.
Allez, on est parti pour Jerry Lee Lewis. Merci.
Jerry Lee Lewis dit le killer.
Dit le killer. Merci Alessi Dell'Umbria. C'est Rature. C'est fini. On se retrouve dans quelques semaines. À très bientôt. Au revoir.
Chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Baby, I got the bull by the horn. We ain't faking it. Oh, lot of shaking going on. Yeah, I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, make it shake. Come on over. You can shake it one time for me.
How's it come over, baby? Oh, Lord, shake it going on.
Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got it.